Bonsoir, un bon tuyau qui fait des vagues à la une des informés de France Info ce soir. Le conseil du président à un chômeur sur ce boulot que l'on trouve en traversant la rue, eh bien, passe mal dans l'opinion. Mais Emmanuel Macron, sur le fond, est-il dans le vrai? Nous posons la question ce soir. Nous évoquerons également les 1800 suppressions de postes de Jean-Michel Blanquer. L'éducation nationale n'est désormais plus un sanctuaire. Dimanche, journée sans voiture. Lundi, journée sans Julliard. Anne Hidalgo perd son premier adjoint qui démissionne. C'est plutôt tendance par les temps qui courent. Un chauffeur de bus insulté par un collégien, il lui donne une taloche. Le machiniste risque sa place. Une pétition en son soutien dépasse les 150 000 signatures ce soir. Enfin, une taxe sur votre vide-grenier en ligne. Une future loi contre la fraude fiscale prévoit d'imposer notamment les plateformes de type Le Bon Coin ou eBay, histoire de transmettre vos revenus s'ils dépassent 1 000 euros. On en parle avec nos invités ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue Salomé Berlioux.
Bonsoir.
Vous êtes présidente, fondatrice de Chemin d'Avenir, alors j'explique, association qui aide les jeunes de la France périphérique. Également vice-présidente de Tous Politiques, l'Institut de formation de la République en marche. Avec nous également François Dorcival. Bonsoir François.
Bonsoir Jean-François.
Partenaire des informés, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et notre autre partenaire du lundi, bonsoir Stéphane Vernet.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Également à nos côtés ce soir, bonsoir Christophe Alévèque.
Bonsoir.
Et bienvenue, comédien, humoriste, un habitué des informés. Bientôt à l'affiche, vous me corrigez, de La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, mise en scène Alain Saxe au théâtre du Gymnase Marie-Belle. Vous êtes en pleine répète et ça commence le 3
octobre. Le 3 octobre, j'ai traversé la rue et j'ai trouvé le théâtre du Gymnase, donc du boulot.
Formidable. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Une petite phrase et de gros dégâts peut-être dans l'opinion. L'équation se répète. Après le pognon de dingue et les Gaulois réfractaires au changement, Emmanuel Macron a de nouveau fait sensation samedi lors des journées du patrimoine avec ceci.
Si vous êtes prêt et motivé, viens. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
François Dorcival, un président ne devrait pas dire ça.
Mais je ne suis pas sûr, d'abord parce qu'il l'a déjà dit. Le 4 octobre l'année dernière, rappelez-vous, c'était en visitant le site, après avoir visité le site GMS, et il était en Corrèze, et il disait « Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre le bordel comme ça? Il ferait mieux de chercher des postes. » Et il y en a. Et de ce point de vue, il y en a, c'est vrai. Il y en a 100 000 à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration, comme il y en a dans le bâtiment, etc. On sait très très bien qu'il y a plus de postes à pourvoir que de...
Il y en a en traversant la rue, c'est ce que vous nous dites.
Alors ça, c'est autre chose. C'est une expression. C'est une expression de sa part. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, les gars, prenez-vous en main. On viendra pas vous chercher pour vous donner un emploi. Il faut que vous fassiez quand même l'effort, entre guillemets, de traverser la rue. Alors, il est vrai que c'est insuffisant, qu'il y a derrière toutes sortes de choses à expliquer, à exposer, à dire et à faire. Mais... ça signifie, allez-y.
Stéphane Vernet, c'est une question de forme ou une question de fond?
Mais moi, je pense que sur le fond, il y a effectivement cette idée qu'il y a trop d'emplois non pourvus en France, alors que le chômage endémique est très fort et qu'il a nécessité de trouver une adéquation entre les gens qui cherchent du travail et le travail disponible. Et tout l'effort d'Emmanuel Macron et de ce quinquennat, c'est de dire il faut qu'on réforme les structures pour que les formations soient mieux adaptées, que le système fonctionne mieux pour plus d'efficacité. Après, c'est une vision effectivement très libérale qui l'anime, qui consiste à dire prenez-vous en main, c'est-à-dire que c'est aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre dans ce pays assez révolutionnaire culturellement, c'est pas ce qu'on a pratiqué pendant des années, et la façon dont il le dit pose problème, parce que effectivement ce garçon, ce monsieur là, qui en fait il a la chance de rencontrer le président de la République, qu'est-ce
monsieur
qu'il lui dit?
Qui est apparemment horticulteur de
voilà
formation,
il lui dit quoi. Moi je suis horticulteur, j'arrive pas à trouver, en gros aidez-moi, enfin voilà. Et qu'est-ce que lui répond Emmanuel Macron?
Faire serveur.
Et ben voilà. Et le problème, si vous voulez, c'est que il arrive avec un souci en disant aidez-moi, et la réponse, on est obligé, on a l'impression d'entendre dans la réponse du président, même si c'est pas sa motivation, qu'il est en train de lui dire si tu trouves pas, c'est de ta faute.
Oui, et ça passe. Vous y sentez quelque chose de négatif, Salomé Berlioux, vous qui accompagnez des jeunes de la France périphérique pour qu'ils trouvent leur chemin, il vous a choqué ce président?
C'est vraiment la différence entre le fond et la forme. Sur le fond, je crois qu'on est tous d'accord, ce qu'il dit est vrai. Et moi, j'ajouterais même que si
non,
le
moi,
président...
Non, je suis pas d'accord, mais j'en parlerai après.
Oui,
Christophe,
oui.
Va avoir la main.
Il faut jamais
nous
dire on est tous d'accord.
Nous sommes
ça, c'est vraiment les c'est les réflexes macronistes, ça. Bon, on est tous d'accord là-dessus, on n'en parle
bien,
plus.
Très bien, nous sommes 3 sur 4 à être d'accord, excusez-moi.
Voilà, ça fait pas une... Si, ça fait une majorité.
Moi, je m'exclus, je suis meneur de jeu.
Il y a les 25% de la France.
Journaliste neutre, évidemment.
Je ne commande pas la forme. On peut vouloir plus de pédagogie, on peut vouloir plus d'empathie, effectivement. Après, dans les faits, il y a ces postes à pourvoir, y compris d'ailleurs dans le secteur du jeune homme à qui Emmanuel Macron a parlé ce week-end. Après, moi, ce que je trouve quand même un peu ennuyeux, c'est quand, à ce stade, on réduit l'action d'Emmanuel Macron à des petites phrases. Et il faut quand même dire que c'est beaucoup le cas en ce moment en matière d'orientation des jeunes, en matière d'insertion professionnelle des jeunes. Il fait des choses et c'est quand même plus intéressant que ce qu'il dit à un jeune pendant les journées du patrimoine.
Alors, Christophe Alévèque, vous trouvez qu'on en fait un peu trop sur une petite phrase comme le dit à l'instant Salomé Berlioux.
Manifestement, il trouve, oui.
Sur la petite phrase, oui, parce que elle est insignifiante, comme la politique du président, d'ailleurs. Et elle est fausse. Parce que vous êtes capable de faire 400 km pour accepter un boulot, si vous êtes capable d'accepter un boulot super mal payé, la plupart du temps, on dit dans la restauration, moi j'y ai été confronté avec mes enfants, pour avoir du boulot, il faut ouais. de l'expérience. Donc si vous n'avez pas d'expérience, ils ne vous prennent pas. Donc il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du boulot. C'est d'abord, sur le fond, c'est faux, et sur la forme, c'est tout à fait calculé. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il est en train de vouloir attirer un électorat quelque peu réactionnaire, ouais. un peu comme lui, finalement.
Alors, Christophe Alévèque avait commencé avec ses arguments. Je poursuis Salomé Berlioux, on va en parler après le rappel de l'info, mais est-ce que dans ce pays, il n'y a pas également, je vais vous demander votre avis aux uns et aux autres, une difficulté, puisque quand des employeurs ont des CV un peu atypiques, avec des changements de direction, eh bien, ça ne passe pas souvent, ce n'est pas facile à vendre. Allez, on en parle dans un instant, 20h10 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Emmanuel Macron dit non à une réforme des droits de succession sous sa présidence. Réflexion lancée la semaine dernière par le délégué général de la République En Marche, Christophe Castaner, afin de lutter, selon lui, contre la progression des inégalités de naissance. Mais l'Élysée y met donc un stop. Claude Guéant dépose un recours après sa nouvelle mise en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen dans la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien ministre de l'Intérieur est poursuivi pour financement illégal de campagne, recel de détournement de fonds publics et corruption passive. Claude Guéant avait déjà été mis en examen il y a 3 ans dans ce dossier, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Cuba favorable au mariage homosexuel, le président Miguel Díaz-Canel se dit pour l'inscription dans la nouvelle constitution actuellement en débat du mariage entre personnes du même sexe. Il s'agit selon lui d'éliminer tout type de discrimination dans la société. La possible approbation du mariage homosexuel est fortement combattue par l'église catholique locale. Et puis en Allemagne, 2 trains écologiques sont entrés en service aujourd'hui, une exploitation commerciale sur une ligne du nord du pays, des trains qui fonctionnent à l'hydrogène, conçus par le français Alstom pour remplacer à terme les moteurs diesel, un train plus silencieux et surtout qui ne rejette que de l'eau et pas du tout de CO2.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors les pour et les contre, hein, vous allez entendre successivement Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, c'était sur France Info ce matin, et Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics sur RTL.
Emmanuel Macron est faible vis-à-vis des puissants, des riches, et toujours arrogant vis-à-vis des plus modestes. Je n'aime pas cette conception de la présidence de la République. Vous imaginez le général de Gaulle ou même François Mitterrand faire le clown en écrasant quelqu'un qui est en situation de difficulté et qui ne peut pas répondre.
Bien sûr, il a eu raison. Le président de la République, il a, je crois, avec courtoisie, échangé avec un citoyen qui lui a dit, bah oui, on a peut-être un problème, ce qui est sans doute peut-être d'ailleurs même pas vrai en horticulture, à écouter certains de vos collègues ce matin sur les radios et les télés, de formation et d'adéquation entre le marché du travail et les gens qui cherchent du travail. Donc oui, il y a du travail en France. Oui. Non, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et c'est pour ça que, par ailleurs, nous essayons de baisser l'impôt et relancer l'activité. Et oui, il faut former les gens. Et il faut encore-t-il que ces personnes accèdent à être formées pour changer de travail.
Vous... Voilà, ça recoupe un peu vos arguments tout à l'heure. Stéphane Vernet, faire le clown, cette expression utilisée par Nicolas Dupont-Aignan.
Non, mais ça c'est très exagéré. Enfin, voilà, ça fait partie. Lui aussi fait le clown à sa manière. Hein, ça fait partie du jeu. Voilà, donc c'est celui des petites phrases, etc. Donc encore une fois, moi je pense que Emmanuel Macron est sincère quand il s'exprime vis-à-vis de son interlocuteur, mais il mesure pas à quel point sa façon de parler et de faire peut être blessante pour l'interlocuteur en question ou peut être mal interprétée. Et c'est à ça qu'on assiste. C'est, on parle d'humiliation, etc. Moi, je suis certain que c'est pas du tout son intention. N'empêche que c'est ce que retient une bonne partie de l'opinion aujourd'hui.
Selon vous, oui. C'est Christophe Lévesque.
Non, alors, je suis pas. Enfin, j'arrête pas de pas être d'accord. Mais enfin, bon,
c'est bien. C'est bien. Contraire.
Mais la première fois, on peut dire c'est une erreur. Il a pas fait exprès. La deuxième fois, on peut dire il voulait dire autre chose, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. La troisième fois, on peut encore lui trouver. Là, ça fait la 18e fois déjà. Non, c'est un plan de communication. Je me demande si Mimi, d'ailleurs, n'est pas derrière tout ça, la copine à les journées du patrimoine, sa femme. Il le fait exprès. C'est évident. Tout ça est calculé. Tout ça est. Il prononce plus de petites phrases comme ça. Quand il disait le pognon que coûtent les pauvres, le pognon dingue, c'est filmé par quelqu'un, si je ne m'abuse, de l'Élysée. Donc, c'est de la com.
François Dorcival, il faut rappeler que c'était il y a 4 ans, jour pour jour, que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, avait eu cette phrase concernant ses salariés d'une entreprise, d'un abattoir porcin, GAD, si mon souvenir est bon, en parlant de femmes illettrées. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Il y a un style, Macron ?
Oui, mais bien sûr, il aime ces formules-là. Cela dit, pour ce qui est des femmes illettrées, il est revenu là-dessus et il s'en est quand même expliqué, même
à l'Assemblée nationale.
Oui. Oui, tout à fait.
À l'époque, il n'était pas président. Maintenant qu'il est président, il s'excuse.
Alors, et vous parliez de communication.
Non, mais au-delà, c'est vrai que, au-delà d'une conversation comme celle-là, dont il sait parfaitement qu'elle est filmée, refilmée, etc., il n'empêche qu'il serait bon quand même qu'il s'explique vraiment sur sa politique en matière d'emploi. Si ce genre de polémique doit y conduire, tant mieux. Parce que, au fond, on l'a laissé sur l'affaire des ordonnances sur le marché du travail. Après, on est allé dans l'université, la SNCF, etc. Mais sur l'emploi, on n'a pas le sentiment qu'il y ait de la cohérence. Donc, il faudrait que lui-même s'explique sur cette cohérence.
Alors, justement, Salomé Berlioux, à ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas un changement de mentalité à opérer dans ce pays ? Christophe Lévesque évoquait à juste titre tout à l'heure de la difficulté, au fond, déjà pour soi-même, de changer de branche en claquant des doigts. C'est pas évident, c'est pas facile dans nos vies, dans nos carrières professionnelles. Et c'est même mal vu de la part, eh bien, des employeurs quand des jeunes arrivent avec des CV, avec à géométrie variable, c'est jamais cohérent. On veut toujours en France quelque chose d'assez rigide, d'assez vertical. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de mentalité à opérer dans ce pays, vous qui vous occupez de jeunes ?
C'est certain que les profils atypiques, encore aujourd'hui, ont des difficultés à s'orienter. C'est certain que les jeunes des quartiers prioritaires de la ville ont des difficultés à s'orienter et à trouver de l'emploi. Et c'est certain que les jeunes des zones rurales et des villes petites et moyennes ont aussi ces difficultés, que les jeunes aujourd'hui rencontrent des sujets qui relèvent du manque d'information, de l'autocensure, du manque de confiance en eux, y compris et peut-être surtout quand ils viennent de territoires isolés ou quand ils ont ces profils atypiques. J'ai l'impression que le sujet de communication dont vous parliez ne remet absolument pas ça en compte et que ce n'est absolument pas ce que Emmanuel Macron remettait en cause.
On ne sait même plus ce qu'il remet en cause. Moi, je ne comprends plus rien à ce qu'il raconte.
Oui, allez-y, terminez, Salomé Berlioux.
Non, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement?
Je ne sais pas, je pense qu'il est peut-être tellement trop intelligent que moi, je n'arrive plus à suivre, bête que je suis. C'est-à-dire qu'il nous emmène sur toutes les pistes et moi, je ne comprends plus. Il veut lutter contre le chômage, on en parlera plus tard, ministre des Sports, 1800 en moins. La SNCF, on l'a évoqué, hop, des emplois en moins. À chaque fois, on parle d'emplois en moins, veut faire des économies, il faut passer en dessous de la barre des 3%, le dogme, le totem, alléluia.
Alors, on va essayer de vous répondre. Justement, c'est dans ce contexte que survient, puisque vous en parlez, Christophe Lévesque, l'annonce faite par Jean-Michel Blanquer, qui inquiète les syndicats, notamment plus d'argent, mais moins de postes, a dit le ministre de l'Éducation nationale. C'était dans le Figaro ce matin, puis chez nos amis de France Inter.
Il va y avoir donc une des plus fortes augmentations de l'État pour l'éducation nationale, hein, c'est plus 1,7%, c'est-à-dire plus de 800 millions d'euros de plus dans le budget. Et en même temps, nous faisons le choix d'avoir effectivement des suppressions de postes uniquement dans le second degré et sur les postes administratifs, puisque cela nous permet tout simplement de dégager des marges de manœuvre pour faire de vrais choix politiques.
Stéphane Vernet, il y a une contradiction dans les annonces qui sont faites?
Mais pas dans la façon dont eux l'envisagent, c'est-à-dire que le supprimer des postes alors qu'on a plus de moyens, ça peut paraître paradoxal, mais l'idée qui anime ce gouvernement en toute chose, c'est de remettre les choses à plat, c'est de réorganiser pour gagner en efficacité. Alors est-ce que c'est la bonne méthode? Ça, je ne sais pas. Moi, je suis pas ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas comment ça fonctionne, où est-ce qu'il va les postes supprimés, ils vont manquer à qui, à quoi, à quel moment. Mais l'idée générale, c'est de dire c'est un système qui fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne, et on le réorganise. Et les suppressions de postes, c'est pas des suppressions d'emplois. À partir du moment où on redéploie les choses dans le temps, si ça fonctionne mieux, c'est pas forcément choquant. Mais le problème, c'est qu'il faudra voir à l'usage, c'est à la fin, c'est à l'arrivée qu'on verra si ça fonctionne ou pas.
François Dorcival.
Oui, on est à l'éducation nationale. On est à l'éducation nationale, il n'y a rien de plus sensible que l'éducation nationale. Quand vous supprimez 1300, 1800 postes aux finances, personne n'en parle naturellement.
À l'éducation 2000, nationale. Supprimer 2000 aux finances.
Non, mais à l'éducation nationale, même il en supprimerait 1000, que ce serait le même effet.
Vous dites quoi? Ce devrait être un sanctuaire.
Tout ça est du symbole. Tout ça est politique.
Alors que c'est 0,2%
du nombre d'emplois. Non, mais bien sûr, c'est sur 100 000 emplois. On sait bien ça. Mais derrière cela, il y a quand même une explication. Un, je ne touche pas au primaire. Je ne touche pas au primaire. Le primaire, c'est le premier degré. C'est là que Jean-Michel Blanquer a dit « je mets tout mon effort là-dessus » parce que les enfants, c'est là que ça commence vraiment. Or, jusqu'à présent, nous avons une masse syndicale, donc politique, à l'éducation nationale qui ne s'occupe que du second degré, qui n'a privilégié que le second degré, pendant des dizaines d'années. Or, dans les lycées, comme dans les collèges, la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir recruter, encore une fois. Vous n'avez pas autant de candidats que vous avez de demandes. Alors, le contexte dans lequel s'applique cette réduction de 1800 postes ne me surprend pas et surtout ne m'effraie pas.
Allez, on va poursuivre là-dessus, 20h20 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan parviennent à une décision sérieuse concernant Idlib. Moscou et Ankara se sont accordés sur la création vers le 15 octobre d'une zone tampon dans l'ultime région rebelle syrienne. Annonce du président russe à l'issue de ses pourparlers à Sotchi qu'il a jugé très constructif et fructueux. Nous sommes tous au moins en partie responsables s'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Les mots du nouveau premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, sur France Info. L'ancien adjoint au budget succède à Bruno Julliard qui a démissionné en évoquant de vifs désaccords avec la maire Anne Hidalgo. Le nouveau patron d'Air France KLM, Benjamin Smith, a pris ses fonctions aujourd'hui et il a fait cette annonce forte. Il va investir la moitié de sa rémunération fixe dans le capital du groupe. Cela représente 450 000 euros par an. Un geste pour afficher sa confiance dans le futur succès du groupe. L'homme roué de coups samedi soir à Saint-Pierre-des-Corps près de Tours est mort des suites de ses blessures. Ce père de famille âgé de 43 ans avait été frappé pour une banale histoire de place de stationnement sur le parking d'un hypermarché. Deux hommes de 21 et 24 ans ont été interpellés. Et puis la canalisation d'eau potable sous-marine qui s'est brisée samedi après-midi sur l'île d'Aix près de La Rochelle a été réparée. Mais l'eau ne devrait revenir que demain soir pour les 250 habitants de l'île.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Salomé Berlioux, à l'instant, François Dorcival rappelait la priorité du gouvernement. Elle va sur le primaire. Que dites-vous ce soir du fait de, au fond, rémunérer les enseignants aux heures supplémentaires?
Il y a c'est une vraie demande et un vrai besoin. Et c'est une décision politique courageuse qui va dans le sens de celle menée depuis 15 mois. Et vous parliez tout à l'heure du fait de ne pas toucher à l'enseignement primaire. Non seulement ce n'est pas touché, mais c'est même opérer un rééquilibrage qui va totalement dans le sens des préconisations de l'OCDE, parce que je crois que la France est bien une exception française dans la matière et pas une exception au sens positif du terme. Après, quand on parle de rééquilibrage, je vois le rééquilibrage effectivement entre cycles, et ça c'est important et c'est fait. Je pense à titre personnel qu'il y a un vrai rééquilibrage à faire en matière territoriale. Et là aussi, il y a des décisions politiques courageuses à prendre, et ce n'est pas encore vraiment le cas.
Ah, ce n'est pas pour vous, le compte n'y est pas en matière territoriale, vous qui vous occupez évidemment de la France périphérique. Christophe Alévèque, cette réforme en marche de l'éducation nationale, elle vous chagrine quand même, ou il y a quand même des choses positives à vos yeux?
Non, mais moi j'aime bien le ministre de l'éducation. Là, on vient d'entendre un résumé de ce qu'est le président de la République et le gouvernement, et ce en même temps, moi qui m'énerve maintenant, enfin en tant qu'humoriste, moi je suis ravi parce que en même temps ça n'existe pas.
Et vous nous faites rire et pleurer en même temps.
Je veux prendre une douche en même temps sans mouiller quoi.
Vous-même vous nous faites rire et pleurer en même temps.
Oui, mais oui. Tout à fait. Non mais ça c'est possible par contre. Là j'entends. D'ailleurs c'est le titre. Je ne sais pas si c'est en ce moment sur les écrans. Éducation nationale, 1800 postes supprimés. C'est-à-dire que on va augmenter le budget de l'éducation nationale, si j'ai bien compris, et en même temps supprimer des postes. On entend Darmanin tout à l'heure qui nous répète le « en même temps », c'est-à-dire on va faire des économies, mais en même temps, on va diminuer le chômage. Nicolas Hulot était très content d'ailleurs, on va on va industrialiser le pays, mais en même temps, on va faire de l'écologie. Bon, lui, il a décidé que c'était pas possible, il est reparti chez lui. Moi, j'entends, là, avec la petite phrase du président au départ, tu veux trouver du boulot, tu traverses la route, et puis en même temps, tu veux trouver Pôle emploi, tu traverses la route aussi.
Alors,
est-ce que c'est la même rue?
Alors, je ne sais
non,
pas.
Mais vous vous rendez compte, François Dorcival. 1800 emplois, il est arrivé qu'on supprime 30 000 postes sur les 800 000 ou les 900 000 de l'éducation nationale.
Oui, mais tous ceux qu'on a entendu dire ça, le résultat sur le chômage était nul. Depuis 15 ans.
Alors, François Dorcival, le gouvernement, vous le savez, veut supprimer donc 4 500 postes.
Oui, alors que son projet, c'est 120 000.
Alors, la question sur 5 ans. Alors, 50 000 dans la fonction publique d'État. Nous avons posé tout à l'heure la question à Olivier Dussopt, qui est le secrétaire d'État qui est en charge des fonctionnaires. Il était l'invité de l'instant politique. Est-ce que cet objectif sera atteint?
Nous avons déjà dit que les administrations économiques, Bercy, contribueraient, et ce n'est pas la première année, à hauteur d'environ 2000 postes dans le cadre des réorganisations, de la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Pour le reste, il s'agit d'ajustements. Nous avons un objectif à 50 000 postes. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique en matière de fonction publique. Mais nous voulons aller vers une diminution de la dépense publique. Par contre, il y a un préalable, et c'est là que nous différencions fortement la RGPP, c'est que nous ne remettons pas en cause la qualité du service. On révise la politique, on réorganise les services sur les territoires, et après on en tire les conséquences sur les effectifs.
Stéphane Vernet, il a bien dit, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. On a l'impression que cet objectif ne sera jamais atteint.
Non, alors, c'était une promesse de campagne, 120 000 postes, mais je crois que...
C'est 50 plus 70.
Oui, sur le quinquennat.
Il me semblait que François Fillon en annonçait...
500 000.
C'était pas 200 000 500 000 par an. Donc, c'est une promesse de campagne, il y a la volonté de la tenir, mais c'est vrai que le rythme auquel on assiste aux annonces concernant les successions de postes progressive, moi, à mon avis, fait qu'elle ne se sera pas tenue. C'est ce qu'on se disait l'autre jour à cette même antenne. Oui. C'est-à-dire que on commence avec 4500 postes maintenant, enfin après, vous allez avoir les européennes, ensuite, il y aura les municipales. Après, on rentrera en campagne pour le renouvellement du mandat à la présidentielle. C'est pas très populaire d'annoncer des suppressions de postes. Donc, j'ai un doute sur le fait qu'ils parviennent à arriver à tenir cette promesse. Après, quand Olivier Dussopt dit que c'est pas l'alpha et l'oméga, regardez ce qu'il dit à côté. C'est-à-dire, il dit, ce qui est important, c'est la qualité du service. Et c'est le fameux « en même temps » que dénonce Christophe Alévèque avec force. C'est-à-dire, comment on fait pour réduire le nombre de personnes, le nombre de postes, et garder un service public de qualité? Et c'est tout le pari lequel a misé ce gouvernement. Mais sur lequel il y a des doutes récurrents, parce que ça nous paraît pas possible. Mais encore une fois, moi je dis, s'ils s'y prennent correctement, ça peut marcher aussi. Pourquoi pas? Et on verra à la fin de l'histoire.
La fin de l'histoire, elle est très très proche. C'est-à-dire qu'au mois de janvier et de février, on va savoir comment ça marche avec la retenue à la source. Alors là, Et ils ont intérêt à avoir du monde derrière les téléphones pour répondre à tous ceux qui se retrouveront dans la difficulté avec les ordinateurs.
Allez, fin de la première partie des informés. Dans un instant, la démission du premier adjoint d'Anne Hidalgo. Une gifle qui soulève un problème de société et des ventes en ligne dans le collimateur de Bercy. Mais tout d'abord, c'est la météo et le rappel de l'info. À tout de suite.
Cécile est assistante et cliente Hyperbureau. Et quand elle s'assoit sur la chaise cassée de son salon, elle craque.
Chérie, tu comptes la réparer un jour cette chaise ?
Chez Hyperbureau, nous lui donnons ce petit conseil. Cécile, vous seriez bien mieux au boulot. Siège, mobilier, informatique, fourniture de bureau. Cécile améliore son confort et prend soin de son dos.
Hyperbureau. Hyper pro, hyper proche.
Mes amis, au secours.
L'abbé Pierre a laissé un héritage inestimable. Faites comme lui. Poursuivez son action auprès des plus pauvres, en léguant toute ou partie de votre patrimoine, en souscrivant une assurance vie ou en faisant une donation en faveur de la Fondation Abbé Pierre. Demandez une brochure ou prenez rendez-vous au 01 55 56 37 27. Plus d'infos sur fondationabbépierre.fr.
France Info à Avignon, 105.2.
Et partout dans le monde, sur franceinfo.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Demain, le temps restera globalement calme malgré le passage d'une perturbation. Cette perturbation sera peu active, apportant surtout des nuages en matinée du Pas-de-Calais à la Vendée jusqu'aux côtes de la Manche. Ciel nuageux aussi demain matin sur le Languedoc-Roussillon et de l'Aquitaine au sud de l'île de France. Sur le reste du pays, la matinée sera bien ensoleillée. Demain après-midi, le front perturbé donnera un temps changeant entre le nord du Massif central, l'est parisien et le plateau lorrain, avec des risques d'averses et d'orages. Des averses localement orageuses sont aussi attendues. Demain après-midi, sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura et l'est de la Corse. Le nord-ouest retrouvera de belles éclaircies, notamment entre le Cotentin et la Loire-Atlantique. Ailleurs, le soleil sera bien présent, mais un peu atténué par un voile de nuages élevé. La nuit prochaine sera douce et les températures de demain après-midi seront encore estivales. Prévoyez 23 degrés à Cherbourg et Abbeville, 25 degrés à Lille et Biarritz, 28 degrés pour Paris, Marseille, Limoges et Bastia. On ira jusqu'à 30 degrés à Montauban, Strasbourg et Clermont-Ferrand et 32 degrés pour Lyon.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La souffrance animale en procès à Pau, première journée d'un procès très attendu, celui de l'affaire de l'abattoir de Mauléon, qui s'est donc ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel, 2 ans après les faits. L'affaire avait éclaté lorsque l'association de défense des animaux, L214, avait diffusé des images enregistrées clandestinement en mars 2016. On y voyait des animaux de boucherie maltraités lors de leur mise à mort. 4 employés étaient directement mis en cause pour leur comportement vis-à-vis des bêtes. Ce sont ces jeunes opérateurs qui étaient entendus aujourd'hui. À Pau, compte rendu d'audience pour France Info, Paul Nicolaï.
Longtemps, ils ont patienté sur le banc des prévenus, se rongeant les ongles et les jambes tremblantes. Les 3 jeunes opérateurs mis en cause par l'association de défense des animaux, L214, ont raconté leur quotidien au sein de l'abattoir de Mauléon. En poste dès 4h du matin pour l'abattage des agneaux, puis place aux bovins, une pause de 20 minutes, pas plus, et les cadences reprennent jusqu'en milieu d'après-midi. Des centaines de bêtes à étourdir, puis à saigner, avec la chaîne d'abattage automatique qui ne s'arrête pas. J'étais tout seul pour 3 postes, explique Gérard, la trentaine, père de famille obligé de travailler pour ramener un salaire à la maison, explique-t-il. Comme les autres, il se demande ce qu'il fait là, d'autant que les services vétérinaires ont validé les procédures. Quelques négligences, tout au plus, ont été relevées par l'administration. Paul Nicolaï, France Bleu Pays Basque pour France Info.
Elle ne s'est plus exprimée publiquement depuis 1993, 25 ans. Muriel Boll, l'un des personnages clés de l'affaire du petit Grégory, sera au cœur d'un livre à sortir le 8 novembre prochain, intitulé « Briser le silence ». Il est rédigé par l'écrivaine Pauline Guéna, qui apparaît-il rencontrée à de nombreuses reprises. Muriel Boll. Le premier adjoint d'Anne Hidalgo claque la porte. Bruno Julliard dénonce au passage l'inconstance, le déficit d'humilité et l'opportunisme de la maire de Paris, qui remercie toutefois le partant pour le travail accompli pendant 4 ans et annonce la nomination à sa place d'Emmanuel Grégoire, jusque-là adjoint en charge du budget. Emmanuel Macron lui exclut formellement pendant son quinquennat une réforme des droits de succession. La mesure avait pourtant été évoquée et défendue vendredi par le délégué général du mouvement présidentiel La République En Marche, Christophe Castaner. Et puis l'antenne de nos confrères de RFI, perturbée par une grève des correspondants à l'étranger et des pigistes de la radio, ils réclament une meilleure protection sociale. Enfin, Ben Smith prend les commandes d'Air France KLM. Le nouveau patron tente de donner des gages de bonne volonté aux salariés en promettant d'investir la moitié de sa rémunération fixe en actions du groupe. Les informés, la suite, Jean-François Akili.
20h, 21h, les informés, Jean-François Akili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Salomé Berlioux, présidente fondatrice de Chemin d'Avenir, également vice-présidente de Toutes Politiques, l'Institut de formation de la République En Marche. Avec nous, François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Christophe Alévèque, qu'on ne présente plus, comédien, humoriste et pilier des informés. Alors, il n'a prévenu Anne Hidalgo que ce matin, la maire de Paris, encore enthousiasmée par le succès de sa journée sans voiture, a pris acte de la démission de son premier adjoint Bruno Julliard, qui s'est fendu d'une interview assez musclée à la une du journal Le Monde, évoquant de vifs désaccords et dénonçant une certaine forme d'inconstance, selon lui, de la part de la maire de Paris, qui a aussitôt nommé son successeur, un certain Emmanuel Grégoire, adjoint au budget, pour Yann Brossat, l'adjoint au logement d'Anne Hidalgo, également tête de liste PCF aux européennes. Eh bien, l'équipe municipale était devenue sans doute un peu trop à gauche pour Bruno Julliard. On écoute Yann Brossat sur France Info.
J'ai tendance à considérer que nous étions devenus sans doute un peu trop à gauche pour lui. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son interview au Monde aujourd'hui. La principale mesure qu'il dénonce, c'est la gratuité des transports en commun pour les seniors. Et moi, je suis plutôt fier d'appartenir à une majorité municipale qui, dans une période difficile pour les retraités, décide d'attribuer la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées. Et quand on regarde les grands dossiers, je note plutôt une capacité à tenir la barre de la part de notre équipe municipale. Nous avons décidé de piétoniser les voies sur berge. Quand nous avons décidé de mettre en place un centre d'hébergement dans le 16e, malgré les oppositions, nous avons tenu. Dire qu'il y aurait une forme d'inconstance de notre équipe municipale me paraît être un contresens absolu.
Salomé Berlioux, que dites-vous de cette démission surprise du premier adjoint d'Anne Hidalgo ?
Donc le premier adjoint parle d'efficacité, d'un déficit d'efficacité. Bon, nous sommes parisiens, ou en tout cas désormais parisiennes dans mon cas.
Vous êtes parisienne, enfin vous vivez à Paris.
Depuis 10 ans, je suis initialement auvergnate, mais on se fait au fait d'être parisien.
Ah, hors-feu, tout ça.
Et donc, on ne peut qu'être d'accord avec la nécessité d'une efficacité renforcée pour les Parisiens dans leur quotidien, en matière de transport, pour ce qui concerne le réchauffement climatique, les services publics, etc. Ceci étant dit, moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est la mise en scène, parce que je trouve qu'il y a une mise en scène dans cette démission, avec une espèce de tendance actuelle à l'acte de sincérité. C'est ce que Bruno Julliard dit dans son interview. C'est aussi d'ailleurs ce que Nicolas Hulot disait il y a peu lorsqu'il a démissionné. Ouais. Et donc avec une logique qui consiste à préparer sa démission secrètement et la tenir secrète jusqu'à la dernière minute et puis l'annoncer au petit matin.
Ça vous plaît pas, ça ?
Je trouve que les termes employés dans l'interview suite à cet acte de sincérité sont quand même un peu rudes et n'étaient pas forcément nécessaires. C'est-à-dire que, très bien, dire que la feuille de route n'a pas été respectée, très bien. Dire que il n'y a pas assez d'efficacité.
Okay, mais vous, ce qui vous plaît pas, c'est le style, la méthode. Quoi.
Inconstance, autoritaire, une maire de Paris qui agit à l'instinct. Je dis pas ça parce que je suis la seule femme autour de la table, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que Jacques Chirac, lui aussi, a priori, était quelqu'un qui agissait plutôt à l'instinct, qu'il y a un certain nombre de maires qui sont autoritaires et qu'on ne le dit pas forcément de la même façon.
Stéphane Vernet, vous partagez ce point de vue? Vous trouvez la méthode d'un peu suspecte? Certains amis d'Anne Hidalgo parlent d'actes de trahison.
Oui, alors je trouve que la démission est en passe de devenir très tendance, effectivement.
La démission devient tendance.
Ah ouais, c'est très mode. Le mode opératoire est spécial parce que voilà, dans l'interview de Bruno Julliard, il nous dit quoi? Il nous dit mais moi le projet est bon, mais en gros c'est Anne Hidalgo qui va pas, quoi. Et c'est quand même lui qui était présenté comme son espèce de premier ministre, l'homme orchestre. C'est celui qui devait l'accompagner vers la victoire aux prochaines élections et prendre sa succession. Et là, d'un coup, il fait comme Nicolas Hulot, il fait une hulotte, comme dit Stéphane Bern, hein, c'est-à-dire que
une hulotte.
Il prépare son truc. En...
Oui.
C'est pas moi, hein, c'est Stéphane
Bern
qui
avait dit ça. Oui. Voilà, il ne ferait pas de hulotte.
Il prépare son truc en douce, il sort ça au petit matin, effectivement, et il dit j'espère que mon départ provoquera un sursaut.
Ouais,
comme Nicolas Hulot. Hein. Et puis ça marche, là, le sursaut. Ouais. Mais dans le cas de Bruno Julliard, je pense qu'il y a une espèce de mixte entre Nicolas Hulot et Patrick Stefanini. Parce que, souvenez-vous, Patrick Stefanini a assuré la campagne de François Fillon.
Il claque la porte.
Et il claque la porte juste avant en disant, moi, je crois plus au projet et on va perdre. Et en fait, dans l'attitude de Bruno Julliard, il y a ça aussi. C'est-à-dire que Anne Hidalgo avait laissé entendre qu'il prendrait sa succession pour non pas le prochain mandat, mais le suivant. Apparemment, il croit plus au projet, mais je crois qu'il croit plus à la réélection potentielle d'Anne Hidalgo, et il s'en va.
Même s'il s'en défend dans l'interview.
Ça y ressemble quand même.
Tout à fait.
François Dorcival, la démission devient tendance, et c'est une méthode pour, au fond, échapper à quelque chose de funeste ?
Ah, moi je suis absolument enchanté du départ de Bruno Julliard, parce que ce que je vois, c'est que depuis le mois de janvier, elle ne prend que des gamelles, la maire de Paris.
Vous parlez d'Anne Hidalgo ?
Oui, je parle que de la maire de Paris, oui. Et tout ça s'accumule depuis des mois. Et donc, il y a des dénonciations qui paraissent dans la presse, il y a des dossiers qui sortent, etc. Que Bruno Julliard, qui est quand même le grand chef précédent de la campagne d'Anne Hidalgo, il l'a soutenu périndé à cadavère à tout moment, qu'il mette en cause aujourd'hui la piétonnisation des voies sur berge. Je dois dire que, mais je l'ai relu deux fois la phrase avant de l'accepter comme telle. Donc,
en fait, c'est pas le principe, c'est il
oui,
dit
oui,
qu'il
c'est l'approximation dans la préparation,
la gestion de la piétonnisation,
de la décision, etc. En réalité, c'était lui qui répondait quand les tribunaux dénonçaient leur méthode de travail. C'était lui qui disait mais il y a rien à voir. Attendez, passez votre corps. Ce que je dis, c'est que ceci traduit une désorganisation progressive de la mairie de Paris sous l'autorité sectaire de la maire de Paris.
Christophe Alévèque, ce que dit à l'instant François Dorcival, qui est assez cash, assez sévère, que diriez-vous de votre côté?
Ah oui, mais c'est valeurs actuelles, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ce que j'ai vraiment ressenti quand j'ai entendu ça, c'est « je m'en fous ». C'est-à-dire que Bruno Julliard démissionne, je me tamponne le coquillage, mais alors à un point. Et puis c'est incohérent. Enfin, je sais pas.
Vous voulez dire que c'est insignifiant?
Il est, dans ce qu'il raconte, il est incohérent. C'est-à-dire, il reproche à la maire de Paris d'être trop, soit de ne pas écouter, soit de trop. Je ne comprends pas ce qu'il lui reproche. Lui, alors comme disait François Dorcival, qui était en première ligne, qui a défendu tous les projets, et tout d'un coup, qui fait oh là là. Je sens le mec, peut-être je me trompe, qui va rejoindre la Macronie.
Alors,
mais je ne sais pas, je ne le connais pas assez, hein. Mais ça sent le mec qui dit tiens, le PSG vient de se faire éliminer, je vais peut-être aller au Real de Madrid.
Vous êtes un fin connaisseur de la chose footballistique.
Oui. Alors enfin là, j'ai oublié l'OM.
Mais vous lancez un débat intéressant. Je vous promets, on le poursuit. 41 minutes, pardon pour le retard. Claire sur France Info. Le rappel avec vous, Claire Flochel de l'info.
Une nouvelle mise en examen pour Claude Guéant, notamment pour financement illégal de campagne électorale. C'est l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Claude Guéant, ancien directeur de campagne puis ministre de l'Intérieur, avait déjà été mis en examen dans ce dossier en 2015. Le procès de l'assassinat de la richissime héritière monégasque Hélène Pastor s'est ouvert aujourd'hui devant les assises des Bouches-du-Rhône à Aix. Au total, 10 personnes sont jugées pour leur participation à des degrés divers dans la machination Le principal accusé était le gendre de la milliardaire. Il est accusé d'être le commanditaire du crime survenu à Nice en 2014 pour faire main basse sur la part d'héritage qui devait revenir à sa compagne, la fille d'Hélène Pastor. Aux États-Unis, les vents de Florence sont tombés en Caroline du Nord, mais la tempête continue à déverser des trombes d'eau sur l'ouest de l'État. Le gouverneur de la Caroline du Nord assure que le pire reste à venir. La tempête n'a jamais été aussi dangereuse que maintenant, dit-il. 17 personnes ont été tuées dans les deux Carolines. Et puis après avoir dévasté le nord des Philippines et Hong Kong, le typhon Mangkhut, qui a fait près de 70 morts, a touché terre en Chine. 3 millions de personnes ont été évacuées selon les autorités chinoises.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors Christophe Falévêque est un peu notre lanceur d'alerte ce soir aux informés de ce lundi.
Attention, hein, oui. Ils vont en prison, hein, les lanceurs d'alerte.
François Dorcival, c'est du pain béni pour La République En Marche. On sait qu'Emmanuel Griveaux, Gaspard Ganzer, qui n'est pas à La République En Marche, mais qui est un ancien collaborateur de François Hollande. Il y a aussi des noms qui circulent. Mounir Majoubi donne une interview ce soir au Figaro pour dire, au fond, il serait un candidat idéal pour Paris. On a Hugues Rançon, qui est un député du 15e arrondissement, qui vient des rangs de la Chiraquie. On a même des soupçons de possible candidature du Premier ministre Édouard Philippe. Qu'est-ce qui se passe avec Paris ?
La fin d'un règne. La fin d'un règne, d'une gestion qui a d'abord été assurée de manière modérée par Bertrand Delanoë, qui est devenu totalement excessive, désordonnée, incohérente et méchante de la part de la nouvelle maire de Paris, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, donc, tout le monde se précipite. Tout le monde se précipite. Cela dit, c'est extrêmement dangereux parce que tout le monde se précipite, mais la maire de Paris a encore des atouts dans son jeu, des atouts sérieux. Et il ne faut pas croire que Paris, c'est. Il faut bien se dire une chose, c'est que ça, on vote par arrondissement.
Oui, oui,
on n'élit pas le maire.
C'est un vote très particulier.
Voilà. Donc tous les candidats ont intérêt à bien étudier l'affaire avant de se lancer.
Salomé Berlioux, je ne m'adresse pas à l'unique, vous l'avez dit tout à l'heure, femme autour de cette table, mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt tout cela? Et après tout, non, la
oui,
maire de Paris...
Non, mais il y a surtout l'échéance des européennes avant ça.
Oui, entre-temps.
Je pense que... On le sait. Après, je notais avec intérêt quand même, et je me permets de vous le redire, les termes de désordonnée, de méchante, etc., adressés à la maire de Paris, qui décidément abonde quand même dans le sens. Est-ce que vous diriez que un maire est méchant et désordonné, Jacques Chirac, absolument, Bertrand Delanoë?
Oui,
Stéphane Garnier.
Bertrand Delanoë, il a été
Stéphane
modéré.
Garnier là-dessus, c'est une bonne question.
Non, mais moi modéré. Je ne le dirais pas parce que je suis un garçon poli et prudent, mais j'en connais.
Ben bien sûr.
Des noms.
Allez, je vous propose de passer à un tout autre sujet qui marque l'actualité de ce début de semaine. Il y a ce soir une pétition en ligne sur le site mesopinions.com intitulée « La pétition contre une sanction pour le collègue RATP qui a giflé un collégien après un manque de respect ». C'est le titre de cette pétition. Pardonnez-moi, il y a 150 000 signatures et plus ce soir. Vous avez évidemment entendu parler de cette affaire. Je rappelle les faits, ils remontent à jeudi midi dans le secteur d'Arcueil, c'est à la porte de Paris. Un adolescent traverse devant un bus de la RATP qui est obligé de piler le chauffeur, apostrophe à juste titre le jeune homme, qui lui répond, je cite donc le Momo hein, qui a lancé cette pétition, ferme ta gueule et conduis ton bus, le sang du machiniste ne fait qu'un tour, il descend de son autocar et colle une gifle au gamin. Le tout filmé au portable, ces images font le tour. Est-ce normal de gifler un jeune dans la rue en telle situation? Question posée par Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV à Elisabeth Borne, la ministre des Transports.
Non, c'est pas normal de gifler un jeune. Je dis en même temps que c'est vrai quand on conduit des bus...
Donc il doit être sanctionné.
Il y a des commissions dont c'est le travail qui...
Puisque c'est pas normal.
Il y a des commissions dont c'est le travail qui le diront. Mais voilà, moi je dis simplement que...
Vous comprenez qu'il ait pu gifler?
Qu'on aille jusque-là, non, ça n'est pas normal. Qu'il y ait beaucoup de stress et qu'il soit important, du coup, que ces chauffeurs de bus ne soient pas seuls, c'est effectivement...
Ah, la gestion du...
Christophe Alévêque, commentaire?
Elle ment. Ça se voit dans ses yeux. Moi, je connais, je fais le métier de comédien. Je vois dans les yeux, je vois les gens qui mentent.
Et là,
elle avait envie de dire, oui, moi aussi, je lui en aurais collé une. Mais elle est ministre, elle ne peut pas, donc, voilà.
Il y a des commissions.
Est-ce que vous comprenez que le chauffeur de bus ait fait ça?
Elle fait passer le message, quand même,
ouais,
non?
Ouais, elle fait passer le message. Est-ce que, moi, je pose juste la question, est-ce que c'est, dans cette histoire, tout me fait rire, moi. Et la pétition aussi, d'ailleurs, hein. Et le fait de filmé. C'est le résumé de notre époque. Si ça n'avait pas été filmé, on n'en aurait pas parlé. Ce gamin est impoli. Alors, personnellement, je suis le chauffeur du bus. Je ne sais pas si je descends, mais franchement, j'ai envie de lui coller une claque.
La pétition, ce sont apparemment des collègues qui ne veulent pas que le chauffeur en question soit sanctionné. Soit sanctionné.
Mais ils ont raison.
Par une procédure.
Non, mais j'ai bien compris. C'est-à-dire, ça part vraiment. Cette histoire, c'est un épiphénomène qui, parce que réseaux sociaux, parce que c'est filmé, parce que les médias s'en mêlent, parce que devient une affaire d'État. Ce gamin, je sais pas s'il méritait une claque, mais en tout cas, s'il y en a un qu'il faut peut-être punir en premier, hein. C'est peut-être le gamin, déjà.
Alors, Salomé Berlioux, justement, on se souvient de la campagne de Monsieur Bayrou. Un enfant lui fait les poches, il lui donne une gifle. Il avait rectifié à l'époque les candidats en disant « je ne lui ai pas donné une gifle, mais une taloche ». En expliquant que c'était quasiment le geste d'un père. Qu'est-ce que vous dites, vous, devant cette scène qui fait...
François Bayrou, qui après a fait les poches d'autres... Enfin bon, bref.
Ça, c'est encore autre chose.
Donner une gifle, c'est pas terrible. On va pas dire le contraire. C'est pas terrible, d'ailleurs, dans les deux sens du terme. C'est pas génial et c'est pas dramatique. Qu'un prof donne une gifle, c'est pas terrible, c'est pas formidable, il vaut mieux éviter. Qu'un postier le fasse, évitons, et qu'un chauffeur de bus le fasse, évitons. Ceci dit, ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que quand on voit à quel point est-ce que les réseaux sociaux ont tendance à s'emparer de ces sujets-là, l'hystérisation du débat public sur ces thèmes, si le chauffeur de bus en vient à cet acte, alors qu'il sait tout ça, c'est quand même que c'est sans doute la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et il faut aussi s'intéresser à leurs conditions de travail, à la remarque du jeune homme qui était quand même un peu trash, et aux conséquences que ça peut avoir sur eux.
Stéphane Vernet, cette affaire médiatisée, on le sait pourquoi, quelle est la mécanique des choses aujourd'hui? Est-ce qu'elle ne met pas au fond l'accent sur la difficulté de ce métier aujourd'hui de chauffeur de bus, un métier très exposé?
Ouais, alors écoutez, moi je sais pas ce qui s'est passé, parce que j'ai vu la vidéo comme tout le monde, on n'a qu'un extrait. Ça se trouve, ce chauffeur de bus, effectivement, il a eu la peur de sa vie. Hein.
Il dit qu'il a pilé, il a même risqué des problèmes dans son bus.
Bah oui, d'écraser le peur d'écraser le gamin, il descend, si l'autre a des mots...
Il aurait peut-être pas dû piler, finalement.
Il pète les plombs, bon voilà. C'est pas tellement la difficulté d'être chauffeur de bus ou pas aujourd'hui, même si c'est un métier très difficile, effectivement c'est complexe, mais oui. Moi c'est pas ça que je vois. Ce que je vois, c'est l'évolution de notre société. Si vous voulez, il y a quelques années, en fait, le contrôle social dans la rue, il était collectif, il s'exerçait des adultes vers les enfants, et personne trouvait rien à y redire. Je dis pas que c'était mieux avant, mais si vous voulez, quand autrefois, il y a quelques années, quand, gamin, vous preniez une taloche à l'école et que vous reveniez à la maison en disant « j'ai pris une claque, ma maîtresse ou mon maître m'a donné une claque », vous en preniez une deuxième de vos parents qui vous disaient « qu'est-ce que t'as fait comme bêtise ?» Après, on a changé d'époque. C'est devenu les parents qui allaient voir l'enseignant en exigeant, en demandant des comptes. Après, ça a été les parents qui allaient voir les enseignants sans exiger des comptes, mais qui leur tapaient dessus, direct.
Oui, et puis après, ça a été... Ça,
après, non mais bien
mais
sûr,
c'est comme
après,
ça. Une après, forme de transgression
après on
au
s'est
fil
mis
des,
à judiciariser ça en disant mon enfant a été frappé, je vais devant les tribunaux, je réclame de l'argent. Et maintenant, ce à quoi on assiste, et je vais reprendre Christophe, je suis d'accord avec ça, c'est l'impact des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est filmé, ça tourne en boucle, ça devient viral. Mais c'est une non-information absolue. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Enfin, moi, de mon point de vue. Et là, vous voyez, c'est partout. Ça devient une info. On en parle ensemble. Vous avez des politiques qui réagissent, des syndicats qui s'en mêlent. Personnellement, je trouve ça très excessif. Allez. Et ça en dit beaucoup sur l'époque dans laquelle...
La vraie info, c'est que les bus freinent bien.
20h51 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Une avancée à Idlib en Syrie, les présidents russes et turcs se retrouvaient à Sotchi. Aujourd'hui, Vladimir Poutine annonce la création d'une zone démilitarisée entre rebelles et forces syriennes dans la province d'ici le 15 octobre. Emmanuel Macron exclut formellement de modifier les droits de succession. Le président de la République contredit les propos du délégué général de la République En Marche, Christophe Castaner, avait laissé entendre vendredi qu'une réforme des droits de succession pourrait être rapidement envisagée. L'inquiétude après les annonces de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, 1800 postes supprimés dans le second degré en 2019. On va se retrouver forcément à l'arrivée avec des classes plus chargées, lui a répondu sur France Info Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. Enfin, un accord trouvé ce soir entre les pêcheurs français et leurs homologues britanniques au sujet du calendrier de la pêche de la coquille Saint-Jacques en baie de Seine, à l'origine d'affrontements en mer. Ce soir à minuit, les pêcheurs britanniques quitteront la zone de la Manche Est et ne reviendront que le 1er novembre. Et puis la maltraitance animale au cœur du procès qui s'est ouvert à Pau aujourd'hui. Des salariés de l'abattoir de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi que l'ancien directeur sont jugés pour mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique. Ils encourent des peines de prison. Les images choc avaient fait le tour des médias il y a 2 ans et demi, filmées en caméra cachée par l'association L214.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous allons refermer les informés sur une disposition particulière de la loi, la future loi antifraude. Mais François Dorcival, encore un mot sur cette histoire de bus.
Oui. Pourquoi ? Parce que c'est en effet un problème de société. Et ça a été très bien dit. Mais je voudrais ajouter une chose. C'est que c'était devenu un jeu. Un jeu. D'où l'exaspération de ce chauffeur de bus et des autres. Parce que ça consiste à traverser la rue pour obliger le chauffeur à s'arrêter brusquement. Et donc, on voit bien les conséquences de la transformation de la société, des caméras sur smartphone et autres, sur le comportement des gamins qui sortent d'un établissement scolaire. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et c'est ça qui doit être sanctionné avant le chauffeur.
Allez, ça méritait d'être rappelé. Alors,
oui, enfin, moi, je jouais déjà à ce jeu-là il y a 40 ans. Hein, donc.
Sauf que c'était pas filmé.
C'était pas filmé. Ah bah heureusement. On voulait pas que ce soit filmé. Nous.
Allez, la loi antifraude examinée à compter d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale prévoit notamment, eh bien, l'obligation pour les plateformes que vous connaissez, hein, de type, on peut citer les noms, hein, Le Bon Coin, Airbnb, eBay, de transmettre au fisc les revenus de leurs utilisateurs qui gagneraient plus de 1000 euros par an grâce au site. Stéphane Vernet, est-ce que c'est une bonne piste là pour finalement remplir les caisses de l'État? Ça échappait un peu au contrôle tout ça.
Ouais, alors ça fait partie d'une série de mesures qui sont évoquées.
La façon dont vous le présentez, on voit que vous n'y croyez pas une seule seconde, hein, tout en étant objectif et neutre, évidemment.
Oui, je sollicite le talent de Stéphane Vernet.
Non, alors moi, ce que je comprends dans cette histoire, c'est qu'il y a une volonté de faire la chasse aux professionnels qui se font passer pour des particuliers.
C'est ce qui a été
qui
précisé par la
le
suite.
Système. Et donc ils disent non, on va pas aller taxer les particuliers, ceux qui n'en font pas commerce. Et Dieu merci, parce que sinon, on peut mettre un contrôleur du fisc à l'entrée et à la sortie de chaque vide-grenier. Ça va être un peu compliqué. Mais ceci dit, moi j'ai lu la réaction chez vous d'ailleurs du patron du Bon Coin qui dit mais ça concerne quelques centaines de fraudeurs ou de gens qui abusent vraiment, donc c'est très marginal et par contre ça peut nous faire du tort. Moi je veux bien, pour le Bon Coin sans doute, enfin on sait qu'il y a des professionnels de l'immobilier qui se font passer pour des particuliers, ils doivent pas être si nombreux. Par contre sur Airbnb, il y a un sujet parce qu'aujourd'hui vous avez énormément de gens qui mettent des biens en location sur ce type de plateforme et qui ne payent pas les taxes de séjour notamment et qui détournent.
Mais
il
n'y
a pas qu'à Paris.
Bon, enfin, ça vous y voyez une forme de rattrapage de quelque chose qui...
L'accumulation de ce genre d'informations. Alors, on a appris heureusement tout à l'heure que par notre consoeur qui a présenté les informations que Emmanuel Macron lui-même renonçait à l'affaire des droits de succession. Oui. Bon, mais l'accumulation des taxes sur les tablettes, des redevances télé sans télé, de cette affaire où on va rechercher sur les plateformes comment on va... Tout ça, ça se traduit par quoi ? Par la chute libre d'Emmanuel Macron dans le crédit de l'opinion, dans la confiance. Parce que ce sont des choses suffisamment sensibles pour qu'on ne s'invente pas un impôt par jour.
Oui, Salomé Berlioux.
Oui, alors que c'est un sujet, le secteur étant un secteur émergent, c'est un sujet sur lequel il n'est pas non plus anormal que les fiscalistes se penchent, que le Parlement se penche. Ça ne me paraît pas absurde. Il faut le faire pour les GAFA, il faut le faire pour les plateformes.
Les GAFA, après, c'est pas pareil. On est dans les milliards.
Oui, oui, mais on est.
Centaines de milliards.
C'est pas pareil parce qu'il y a un consensus en France. Mais.
Mais quand on parle de Airbnb, là où il y a fraude, il y a fraude. Donc ça se combat, la fraude.
Oui, et le
mais d'inventer des nouvelles.
Là où il faut faire attention, c'est au message à envoyer aux Français, et notamment aux foyers les plus modestes, qui peuvent se dire effectivement
ça porte atteinte
à mon pouvoir d'achat.
Oui.
Non, mais moi, ça me rappelle, c'est exactement, c'est la baisse des APL de 5 euros. Économie de bout de chandelle pour récupérer quoi ? Que dalle. Taxer les grands opérateurs du net, oui. Qu'est-ce qui est fait pour ça ? Plus ils sont gros, plus on en a peur, et moins on fait. On va pas reparler du lobbying, et puis évidemment de ceux qui ont financé la campagne de Macron et qui ne vont pas être taxés derrière. On fait pas ça aux copains. Bon, la fraude fiscale, parce que moi je fais la fête de la dette tous les ans, donc je connais le sujet. La fraude fiscale, c'est... Tous les experts de droite, de gauche, du milieu, de tout, c'est 60 à 80 milliards.
On parle de 100 maintenant, donc
voilà,
on est monté
par
à 100.
An. Est-ce que le gouvernement s'attaque à eux?
Allez,
non, non seulement ça,
c'est fini,
mais
c'est fini.
Mais ils virent des gens.
François Dorcival, la une de Valeurs Actuelles.
Les populismes en Europe.
Et vous, Stéphane Vernet, la une de Ouest-France demain.
Le plan santé.
Le plan santé. Au moins, c'est simple, c'est clair. Et ce sont des titres phares. Tiens, on en parlera demain soir aux informés de France Info. Mais tout d'abord, je vous remercie d'être venus. Salomé Berlioux,
merci à vous, Jean-François,
François Dorcival, Stéphane Vernet et Christophe Lévesque,
et oui,
en pleine forme. Allez, bonne soirée sur France Info. À demain soir.